Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Très belle journée que le Seigneur nous donne à vivre en sa présence, dans son amour, dans sa lumière. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette longue série qui a commencé hier sur l'Église. Et nous confions cette catéchèse à la Vierge Marie, Mère de l'Église. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu que l'Église est un mystère. Mysterion, traduit en latin par deux termes, mysterium, et sacramentum. On va le voir. Lorsque nous parlons de mystère, nous, chrétiens, nous ne parlons pas simplement de quelque chose qui est mystérieux. Le mot mystère, mystère de l'Immaculée Conception, mystère du Christ, mystère... On emploie beaucoup ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela fait référence justement à la révélation divine qui nous dévoile son identité, qui est Dieu, à travers ses œuvres. Et nous entrons dans le mystère du royaume, c'est-à-dire dans la réalité du royaume, avec la richesse contenue dans toute cette vie divine qui vient jusqu'à nous. Alors, lorsque nous disons que l'Église est un mystère, nous disons plusieurs choses, et je vais suivre un peu le catéchisme de l'Église catholique, qui est très bien fait, bien sûr. L'Église est à la fois visible et spirituelle. Il appartient en propre, nous l'avons vu, à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin. Très important, cette phrase du Concile. Ce qui est visible est soumis à l'invisible. Ce qui relève de l'action est soumis à la contemplation. Et ce qui est présent est soumis à la cité future que nous recherchons. Saint Bernard dira magnifiquement cette ces paroles que je vais vous lire maintenant, humilité, sublimité, tente de Kédar et sanctuaire de Dieu, habitation terrestre et céleste palais, maison d'argile et cour royale, corps mortel et temple de lumière. Objet de mépris, enfin, pour les orgueilleux, et épouse du Christ. Elle est noire, mais belle fille de Jérusalem, celle qui pâlit par la fatigue et la souffrance d'un long exil, a cependant pour ornement la parure céleste. Voilà cette chose étonnante du mystère de l'Église. Et le catéchisme nous rappelle que le Christ, unique médiateur, constitue et continuellement soutient son Église sainte, communauté de foi, d'espérance et de charité, ici-bas sur terre, comme un tout visible par lequel il répand à l'intention de tous la vérité et la grâce. L'Église est à la fois société dotée d'organes hiérarchiques et corps mystique du Christ. Assemblée visible, et communauté spirituelle. Église terrestre et Église parée de dons célestes. Nous voilà donc dans, comme on se le disait dans la catéchèse précédente, dans une réalité complexe faite d'un double élément, humain et divin. Mais comme le Fils de Dieu assuma notre nature humaine sans mélange et sans confusion, dans l'Église aussi, normalement, tout ce qui est divin respecte ce qui est humain. Il y a cette belle parole que le prêtre, vous savez, au moment de la messe, de l'offertoire, il verse une goutte d'eau dans le vin. Et il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Admirable échange. Admirable réalité à la fois divine et humaine. Nous restons hommes et en même temps, la grâce ne supprimant pas la nature, elle ne détruit pas notre nature humaine, au contraire, elle la guérit, elle la purifie, elle l'élève, elle la sanctifie pour la consommer dans la gloire. Et donc nous restons hommes, et si justement nous fréquentons le Seigneur dans l'Église, eh bien nous permettons au Seigneur de nous sanctifier et de faire son œuvre en nous. Et pour reprendre une expression chère à nos frères orientaux, le Seigneur nous divinise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devient de plus en plus homme selon Dieu, femme selon Dieu. Car la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, disait saint Irénée. Mais vivant de quoi? Vivant de la vie de Dieu, bien sûr. Alors, où est-ce que ça se passe? C'est dans l'Église. Et à travers l'Église. Cette union des hommes avec Dieu. L'Église, nous dit le catéchisme, c'est un mystère de l'union des hommes avec Dieu. C'est dans l'Église que le Christ accomplit et révèle son propre mystère comme le but du dessein de Dieu, récapitulé tout en lui. Saint Paul appelle un grand mystère l'union sponsale du Christ et de l'Église. Parce qu'elle est unie au Christ comme à son époux, l'Église devient elle-même à son tour mystère. Rappelons-nous que sans la foi, on ne peut pas voir ces choses, on ne peut pas parler comme ça, en dehors de la foi. Contemplant en elle le mystère, saint Paul s'écrit « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Reconnaître la présence du Christ dans l'Église, bien sûr. Dans l'Église, cette communion des hommes avec Dieu, par la charité qui ne passe jamais, est la fin qui commande tout ce qui en elle est moyen sacramentel lié à ce monde qui passe. Sa structure de l'Église, est complètement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Nous le verrons lorsque nous parlerons de la hiérarchie, du sacrement de l'ordre. Ça dit bien ce que c'est. Sacrement de l'ordre pour ordonner, réorienter les fidèles et le peuple tout entier, dont ceux qui ont le sacrement de l'ordre, vers la fin, la finalité, qu'est la sainteté, c'est-à-dire l'union avec Dieu. Et la sainteté s'apprécie en fonction du grand mystère dans lequel l'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. C'est très beau cette phrase. Parfois dans le catéchisme, on lit des phrases un peu comme ça et puis on passe dessus, mais si on s'arrête dessus, l'épouse répond par le don de l'amour au don de l'époux. L'Église répond. Elle est seconde par rapport à son fondateur, par rapport à sa tête, par rapport à son époux. C'est l'époux qui fait le premier pas, c'est l'époux qui la fonde, c'est l'époux qui la crée, nous le verrons, lorsque nous le verrons que Jésus fonde l'Église, son Église. Marie, la Vierge Marie, nous précède tous dans la sainteté qui est le mystère de l'Église, comme l'épouse sans tache ni ride. C'est pourquoi la dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. La dimension mariale de l'Église précède sa dimension pétrinienne. Elle ne s'oppose pas. Pas dire, ah non, moi je suis dans la dimension mariale, la dimension pétrinienne, niette. Non. Les deux. Mais comme l'Église est ordonnée à la sainteté de nous tous, des membres du Christ, on comprend que Saint-Pierre, Pierre, même premier pape, et que les évêques, les successeurs des évêques, les collaborateurs des évêques, que sont les prêtres, nous tous, inscrits dans l'institution, dans la dimension pétrinienne, Marie nous précède, bien sûr. Car même le sacerdoce, ordonné au sacrement de l'Eucharistie, c'est pour que Jésus soit tout en tous. Alors bien sûr, tout le mystère de Marie, la dimension mariale de l'Église, précède la dimension pétrinienne dans le sens de la perfection et dans le sens aussi chronologique. Marie, elle est celle par excellence qui répond comme épouse au nom de toute l'humanité en se laissant épouser par l'époux. Qu'est le Dieu vivant, par les personnes de la Sainte Trinité. Et ce que vit Marie est comme une lumière pour la hiérarchie. La hiérarchie, nous le verrons, si elle a un pouvoir donné par Dieu, tout est orienté vers la sainteté. L'Église, sacrement universel du salut, le mot grec mysterion, je le disais tout à l'heure, a été traduit en latin par deux termes, mysterium, en latin, sacramentum, et dans l'interprétation ultérieure, le terme sacramentum exprime davantage le signe visible de la réalité cachée du salut, indiqué par le terme mysterium. En ce sens, le Christ est lui-même le mystère du salut. Il n'y a pas d'autre mystère que le Christ, disait saint Augustin. L'œuvre salvifique de son humanité sainte et sanctifiante est le sacrement du salut qui se manifeste et agit dans les sacrements de l'Église. Les sept sacrements sont les signes et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce du Christ qui est la tête dans l'Église qui est son corps. L'Église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est en ce sens analogique qu'elle est appelée sacrement. Premier sacrement, dans le sens signe et instrument, c'est bien sûr l'humanité sainte du Christ. Toute la grâce divine descend du ciel et passe par l'humanité sainte du Christ. On dira en théologie que l'humanité sainte du Christ est cause instrumentale de la grâce. Quand Jésus, dans tout ce qu'il vit, Jésus, dans son humanité, il pense, eh bien ses pensées, comme il pense dans la divine volonté, ses pensées viennent rectifier, réparer, détendre, viennent inaugurer eh ben, les pensées humaines, mais selon Dieu. Car nous ne savons plus penser comme il faut. Nous ne savons plus vivre avec notre intelligence comme il faut. Ah, nous, devant le réel, on ne le voit pas. Et puis on adhère à des idéologies, et puis on prend ce qui est faux pour vrai, etc. On s'accroche à des opinions, à des interprétations, à des pensées uniques qui circulent. Et puis on dit, ben oui, c'est comme ça, c'est comme ça. On pense, dans notre intelligence, nous avons tellement besoin d'être rectifiés. Qui nous rectifie ? C'est Jésus, dans son humanité sainte. Rappelons-nous qu'une humanité, une nature humaine, c'est une âme et un corps. Et lorsque nous parlons de l'âme humaine de Jésus, eh bien nous parlons de tout ce qu'il y a dans une âme humaine, avec toutes ses dimensions. Et surtout sa dimension spirituelle, l'intelligence, la volonté. Et l'intelligence humaine de Jésus est splendide parce qu'elle est toute sainte. Il ne se trompe jamais. Il voit clair. Il pénètre les cœurs. Il contemple le Père. Et il contemple l'œuvre du Père. Il voit. Il pénètre. Il discerne. L'intelligence humaine de Jésus est absolument splendide. Et dans son humanité, Jésus, en vivant toute chose et sans cesse dans la divine volonté, va venir nous purger notre intelligence, de sorte que nous pouvons nous plonger dans la divine volonté. C'est l'humanité sainte de Jésus qui est la porte, qui est l'entrée, la porte d'entrée pour vivre dans la divine volonté. Cause instrumentale de la grâce, c'est-à-dire que tout ce que Jésus vit dans son intelligence, dans sa volonté humaine, dans son cœur, dans ses regards, dans sa bouche, toutes ses paroles, dans son agir, dans ce qu'il vit, dans toutes ses démarches, tout est rédempteur. Pourquoi est-ce qu'il va d'un endroit à l'autre ? Il y a une histoire sainte, une géographie sainte aussi. Pourquoi est-ce qu'il passe par le puits de Jacob ? Pourquoi est-ce qu'il agonise à Gethsémani et non pas dans un autre lieu ? Tout ce que vit Jésus dans le temps et dans l'espace, il y a 2000 ans, vient nous rectifier, nous amener, nous attirer, récapituler. Voilà le grand mot. Le saint Paul en Éphésiens 10, Dieu a tout récapitulé dans le Christ. C'est-à-dire que dans le Christ, dans son humanité sainte, voilà que nous trouvons le chemin, la vérité, la vie pour vivre selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Il y a donc dans l'humanité sainte de Jésus, qui est comme le premier sacrement, dans le sens où le sacrement est un signe et un instrument. Signe qui me voit le Père. Ce que nous avons vu, entendu de nos yeux, vu de nos yeux, entendu de nos oreilles, etc., contemplé, c'est le verbe, signe. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à vous. Jésus est le signe par excellence. Il y a le miracle et puis le signe. Le premier des signes que Jésus fit, c'était à Cana, en Galilée. Il y a le miracle, ok, transformation de l'eau en vin, génial. Et le signe, c'est quoi ? C'est qu'à travers ce miracle, voilà que le royaume de Dieu est advenu jusqu'à nous. Le Messie est là, le Fils de Dieu est là, l'Époux est là, le véritable Époux. Signe et instrument. Comme je disais tout à l'heure, tout ce que vit Jésus, 24 heures sur 24, est instrumental, c'est-à-dire communique la grâce. et non seulement signe, mais instrument. C'est-à-dire qu'en s'approchant de Jésus, en l'écoutant, en ouvrant son cœur, en nous laissant enseigner par lui, en nous laissant toucher par lui, qu'est-ce qui se passe? Ben, la grâce advient en nous. Dieu nous visite concrètement. L'humanité sainte de Jésus. Alors l'Église. Attention, on ne peut pas dire Jésus oui, mais l'Église non. Ce serait déchiqueter l'œuvre de Dieu. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Bon, il y a peut-être un petit travail à faire là, hein ? Signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Bien sûr, être le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu, c'est là le premier but de l'Église. Parce que la communion entre les hommes s'enracine dans l'union avec Dieu, l'Église est aussi le sacrement de l'unité du genre humain. En elle, cette unité est déjà commencée, puisqu'elle rassemble les hommes de toutes nations, races, peuples et langues. En même temps, l'Église est signe et instrument de la pleine réalisation de cette unité qui doit encore venir. L'Église est donc le signe de la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. Toujours avec cet aspect invisible et visible, oui, toujours les deux. Et instrument, parce que de fait, par exemple, par les sacrements, eh bien, le Seigneur communique sa grâce. Quand vous baptisez un tout petit ou un adulte, et que vous lui dites, en versant de l'eau sur sa tête ou en le plongeant dans une grande baignoire, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », qui baptise ? Est-ce que c'est le Père machin, le diacre bidule, ou est-ce que c'est le Christ ? Ben c'est le Christ. Mais on voit bien que c'est le Christ qui passe à travers Père machin, diacre bidule, et qui vient rejoindre concrètement l'âme humaine de la personne qui reçoit le baptême, à travers les signes visibles et audibles. L'eau, la parole, présence de la communauté, la foi, toutes ces choses. Ah, c'est très très pauvre comme signe visible, vous voyez, un peu d'eau, une parole. Par rapport à la réalité invisible qui est chargée de tellement de grâce, le baptême c'est immense. Par le baptême, nous accédons au salut, rien que ça. Nous sommes purifiés du péché originel. Par le baptême, nous recevons la grâce sanctifiante, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, les dons du Saint-Esprit, etc., etc. C'est un package magnifique, divin, qui est passé comment ? Par de pauvres paroles si puissantes. Par un peu d'eau. Et voilà que Dieu agit dans les sacrements ex opere operato, c'est-à-dire quelle que soit la sainteté du ministre. Bon, vaut mieux qu'il soit saint, c'est sûr. Pour la fécondité du sacrement, c'est mieux. Mais pour que le Seigneur advienne, que ce soit dans l'Eucharistie, par le baptême, confirmation, confession. Voilà que l'Église, à travers toute son activité sacramentelle, permet au Seigneur de passer, de sauver, de sanctifier, de purifier, de guérir, d'élever, etc., etc., etc. C'est magnifique. Comme sacrement, l'Église est instrument du Christ. Entre ses mains, elle est l'instrument de la rédemption de tous les hommes. Le sacrement universel du salut, par lequel le Christ manifeste et actualise l'amour de Dieu pour les hommes. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, disait Paul VI. L'amour, projet visible, qui veut que le genre humain tout entier constitue un seul peuple de Dieu, se rassemble dans le corps unique du Christ, soit construit en un seul temple du Saint-Esprit. Voilà l'Église comme un mystère divino-humain et qui est à la fois visible et spirituel, est un mystère d'union des hommes avec Dieu et sacrement universel du salut. Extraordinaire. Alors, c'est pourquoi nous avons plusieurs noms et plusieurs images pour qualifier cette Église. Il y a le mot « ecclésia ». Vous connaissez, c'est du grec. « Ekkalein », appelé « or », signifie « convocation ». Et dans un autre paragraphe, le catéchisme nous dit « Le monde fut créé en vue de l'Église », disaient les chrétiens des premiers temps. Le monde fut créé en vue de l'Église ? Ah bon ? Eh oui. Dieu a créé le monde en vue de la communion à sa vie divine, communion qui se réalise par la convocation des hommes dans le Christ. Et cette convocation, c'est l'Église. L'Église est la fin de toute chose. Et les vicissitudes douloureuses elles-mêmes, comme la chute des anges et le péché de l'homme, ne furent permises par Dieu que comme occasion et moyen pour déployer toute la force de son bras, toute la mesure d'amour qu'il voulait donner au monde. Il y a donc ce premier nom qui est donné à l'Église, qui est Ecclésia, convocation. Nous sommes convoqués. Il désigne des assemblées du peuple, qu'on le voit déjà dans l'Ancien Testament, dans les Actes des Apôtres, en général de caractère religieux. Le peuple est convoqué par Dieu, appelé hors. C'est le terme fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament grec pour l'assemblée du peuple élu devant Dieu, surtout pour l'assemblée du Sinaï, où Israël reçut la loi et fut constitué par Dieu comme son peuple saint. En s'appelant Église, donc Ecclésia, la première communauté de ceux qui croyaient au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu convoque son peuple de tous les confins de la terre. Et le terme Kyriaké en grec, d'où sont dérivés church, en anglais, kirche, signifie celle qui appartient au Seigneur. Donc tous les dimanches, si vous voulez, vous êtes convoqués. Hein. Que vous soyez fatigué, que vous ayez peu dormi, que vous ayez envie, pas envie, vous êtes convoqués. Alors si vous ne pouvez pas aller à la messe, ben, y a toujours Radio Maria. Alléluia. Et même, ne pouvant pas vous déplacer, et en participant à l'Eucharistie sur Radio Maria, vous êtes convoqué. Dieu vous convoque pour vous parler, pour se donner à vous. Il vous appelle. Ekkalein. Sors. Lazare dehors. Dans le langage chrétien, le mot « église » désigne l'assemblée liturgique, mais aussi la communauté locale ou toute la communauté universelle des croyants. Ces trois significations sont en fait inséparables. Bien sûr, assemblée liturgique, communauté locale, communauté universelle des croyants. L'Église, c'est le peuple de Dieu que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle existe dans les communautés locales et se réalise comme assemblée liturgique, surtout eucharistique. Elle vit de la parole et du corps du Christ et devient ainsi elle-même corps du Christ. Les symboles de l'Église, maintenant, voyons. Après avoir vu les noms, il y a des symboles qui sont donnés dans l'Écriture sainte. Il y a une foule d'images et de figures qui sont liées entre elles, bien sûr, et par lesquelles la révélation nous parle du mystère inépuisable de l'Église. Les images prises de l'Ancien Testament constituent des variations d'une idée de fond, celle du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, toutes ces images trouvent un nouveau centre par le fait que le Christ devient la tête de ce peuple, nous y reviendrons, qui est dès lors son corps. Autour de ce centre se sont groupées des images tirées soit de la vie pastorale ou de la vie des champs, soit du travail de construction, de la famille et des épousailles. Il y a donc par exemple le mot bercail, l'église et le bercail, dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. Rappelez-vous, je suis la porte, dans le 10e chapitre de l'Évangile selon saint Jean. Je suis la porte. Je suis le bon berger, les autres sont des mercenaires. Elle est aussi le troupeau dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur et dont les brebis, quoiqu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ même, bon pasteur et prince des pasteurs, qui a donné sa vie pour ses brebis. Il y a donc dans le peuple de Dieu, si vous voulez, les fidèles, les prêtres. Mais les prêtres, bien qu'ils soient configurés au Christ bon pasteur, ils demeurent néanmoins fidèles. Ils conduisent le peuple vers le bon berger. Et lui-même, le pasteur humain, doit apprendre à être, à demeurer agneau, brebis. L'Église est le terrain de culture, on dira le champ de Dieu. Dans ce champ croît l'antique olivier, dont les patriarches furent la racine sainte, et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre juifs et gentils. Gentils, ce sont les non-juifs. Elle fut plantée par le vigneron céleste comme une vigne choisie. La vigne véritable, c'est le Christ. C'est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire. L'Église est aussi dite la construction de Dieu. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire, rappelez-vous, dans l'Évangile et puis dans d'autres passages. Sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres. Les fondations, si vous voulez, ce sont les fondations des 12 apôtres. Mais la fondation, le fondateur, c'est le Christ. Ce fondement, le fondement qui donne fermeté et cohésion. Cette construction est décorée d'appellations diverses, la maison de Dieu, dans laquelle habite sa famille, l'habitation de Dieu dans l'Esprit Saint, la demeure de Dieu chez les hommes, et surtout le Temple Saint, lequel, représenté par les sanctuaires de pierre, est l'objet de la louange des saints pères et comparé à juste titre dans la liturgie à la Cité Sainte, la Nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes en elle, sur la terre, comme des pierres vivantes qui entrent dans la construction. Cette Cité Sainte, Jean la contemple, descendant du ciel d'auprès de Dieu, à l'heure où se renouvellera le monde, prête comme une fiancée parée pour son époux. Elle est magnifique, cette phrase du catéchisme. Cette cité sainte que Jean contemple dans l'Apocalypse, chapitre 21, qui descend du ciel d'auprès de Dieu à l'heure où se renouvellera le monde. À l'heure où se renouvellera le monde. Vous avez une inquiétude par rapport à l'avenir? À l'heure où se renouvellera le monde. Ne croyez pas que l'histoire de notre humanité est entre les mains de potentats qui ont tout pouvoir. Non. Aucune inquiétude. Jean contemple la cité sainte qui descend du ciel d'auprès de Dieu. C'est Dieu qui mène le monde. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut. Elle s'appelle notre mère. Elle est décrite comme l'épouse immaculée de l'agneau immolé que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier, qu'il s'est associé par un pacte indissoluble, qu'il ne cesse de nourrir et d'entourer de soins. Magnifique. Et bien sûr, nous voyons en filigrane derrière ce joli paragraphe 757, tout le mystère de la Vierge Marie. Nous verrons, lorsque nous parlerons de Marie et l'Église, le lien magnifique qu'il y a entre l'Église et Marie. Marie est la Vierge, qui demeure Vierge, mais qui épouse le Seigneur trois fois saint, qui devient mère, qui règne. Et voilà que l'Église, à l'image de Marie, doit d'abord apprendre à se laisser se recevoir de son époux de feu, son époux crucifié et glorifié. L'Église, nous le verrons dans la prochaine catéchèse, d'où est-ce qu'elle vient? L'origine de l'Église. Très important. Après avoir vu aujourd'hui un petit peu des choses importantes sur le mystère de l'Église, nous verrons la prochaine fois l'origine de l'Église. D'où viens-tu, Église? Et où vas-tu? Voilà, nous poursuivrons un peu ce cheminement à travers cette série de catéchèses sur l'Église. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.